Le débat africain. Alain Foucault.
Loin des joutes politiques qui alimentent quotidiennement les médias, loin des savants qui font la une des journaux et des expositions, ils ont choisi d'inventer, d'innover, d'apporter des solutions, de trouver des réponses aux difficultés auxquelles les leurs sont régulièrement confrontés. Leurs inventions sont faites pour voler au secours des nouvelles maladies africaines ou encore des questions qui freinent le développement. L'énergie, par exemple. Ce sont nos innovateurs africains de l'année 2018 qui se terminent. Comme chaque année, nous leur consacrons notre dernière édition. Bonjour, bonne année à tous et bienvenue dans le débat africain consacré aux innovateurs africains 2018. Plusieurs invités, plusieurs inventeurs en ligne dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, le professeur Fodé Abbas Cissé, qui est maître de conférences agrégé, neurologie et chef de service de l'hôpital Igasdine de Conakry. Il est l'inventeur du bonnet EasyCap, des bonnets qui permettent d'enregistrer les données dans une crise d'épilepsie. Une révolution suivie par les Américains et les Danois. Bonjour, professeur Fodé Abbas Cissé.
Bonjour.
Second invité de cette émission, Jean-Luc Semedo, cofondateur de la plateforme Hope, qui permet de créer un réseau connecté de dons de sang. Jean-Luc Semedo est en direct de Dakar au Sénégal. Bonjour, Jean-Luc Semedo.
Bonjour, Alain.
Notre troisième invité est Mahamat Ajid, cofondateur de la start-up tchadienne Courant Jabo, qui a mis sur pied un système pour fournir de l'électricité aux familles modestes qui n'y ont pas accès jusque-là. Un système vert et moins cher. Bonjour Mahamat Ajid.
Ah, bonjour Alain.
Notre dernier invité installé dans ce studio 41 des RFI à Issy-les-Moulineaux est Monsieur Gouro Sidibé, l'inventeur du réseau social Lenali. Premier réseau social totalement vocal, un mélange de Facebook et Viber destiné à ceux qui ne savent pas lire ou écrire. Bonjour Monsieur Mamadou Gouro Sidibé.
Bonjour Alain.
Voilà pour notre plateau. On va commencer par le professeur Fodé Abbas Cissé. On sait que l'épilepsie est une maladie dont le taux de prévalence en Afrique est plus élevé que dans le reste du monde, malheureusement. Elle suscite, et c'est encore plus difficile pour les victimes, beaucoup de fantasmes, notamment les accusations de sorcellerie. Double peine donc pour le malade. La prévention et le traitement coûtent cher. Est-ce, professeur, la raison qui vous a inspiré l'idée du bonnet qui enregistre l'épilepsie?
Donc la nécessité et l'épilepsie, c'est un problème majeur de santé publique. Ça n'a pas l'air, mais c'est 50 millions de personnes dans le monde, donc 80% dans les pays en voie de développement. Donc,
50 millions dans le monde, 80%
dans le monde. Pourtant, dans les pays en voie de développement, comme la Guinée, avec des facteurs de risque qui vont de l'environnement, passant par les traumatismes crâniens, les accouchements de mauvaise qualité et tout ça. Donc, ils sont des facteurs de risque pour l'épilepsie. Donc, quand vous êtes dans un environnement comme ça, vous essayez de trouver des solutions. Donc, en ce qui concerne l'épilepsie, le diagnostic est clinique, mais aussi, ils font un examen complémentaire, qui est paraclinique, qui est l'électroencéphalogramme. Donc, qui consiste à mettre des électrodes sur le crâne et à enregistrer l'activité électrique du cerveau pour confirmer le diagnostic ou en tout cas caractériser le type d'épilepsie. Voilà ce qui se passe en Afrique, c'est que la machine, elle coûte 30 000 euros. Et donc voilà, vous avez du mal à expliquer au directeur de votre hôpital que vous avez besoin de 30 000 euros pour acheter une machine.
Une machine.
Et, bon, apparemment, apparemment, ça fait trop cher.
Et donc, pour les budgets qu'ils ont,
Oui, ça fait un problème de priorité. Je pense que les budgets sont disponibles en Afrique, ça c'est l'occasion de le dire. Mais c'est une affaire de priorité, donc a priori, c'est pas ça la priorité. Et donc, quand c'est comme ça et que vous voyez sur Internet qu'il y a des gens qui utilisent des bonnets déjà pour juste capter leurs pensées, dites, ben tiens, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser ce dispositif pour enregistrer les crises d'épilepsie en Afrique? Et donc, vous prenez contact avec les gens qui ont quand même la technologie pour développer ce genre de dispositif. Donc, ce que nous, on a développé, ça s'appelle le SBS2, c'est le Smartphone Brain Scanner. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les smartphones et les nouvelles technologies et Internet permettent de révolutionner la santé en rendant les soins beaucoup plus proches et plus facile à utiliser. Je m'explique. Un smartphone est disponible sur Terre, c'est 33 milliards de personnes.
Oui, ça, on sait que la plupart des gens en Afrique, même les plus pauvres, dans les zones les plus reculées, ont un smartphone. Alors, comment on utilise un smartphone? Qu'est-ce qu'il vient faire, le smartphone, dans ce soin-là?
Avec une tablette, au lieu d'avoir un gros dispositif qui coûte 30 000 euros ou plus, avec une tablette, et avec l'ingéniosité des ingénieurs danois, et avec le Wi-Fi, on a pu développer avec l'équipe, bon, c'est plusieurs équipes, hein, une équipe à Boston, de neurologues avec lesquels on a pris contact, mais aussi des ingénieurs danois qui, à la base, avaient développé une partie de ce dispositif, c'est-à-dire la capacité d'enregistrer avec le Wi-Fi l'activité électrique du cerveau. Et donc, voilà, tout ça mis ensemble a permis de développer le SDS2. C'est un système qui permet, avec une tablette, un peu de connexion Internet et un bonnet, d'enregistrer l'activité électrique du cerveau de manière plus facile et avec quasiment la même sensibilité qu'un électroencéphalogramme classique.
Alors, ça coûte combien finalement et est-ce que ça marche?
$300 versus 30 000 euros.
$300 au lieu de 30 000 euros. C'est à destination de qui? Des médecins? C'est à destination des hôpitaux, des cliniques?
C'est à destination des hôpitaux, des cliniques, surtout. Hein, c'est à destination des pays pauvres en voie de développement où il y a plus d'épileptiques et pas d'électroencéphalogramme. Donc ça vous permet d'enregistrer l'activité du cerveau des gens.
Et d'anticiper.
Réduit et d'anticiper, bien sûr, de traiter, de suivre, mais aussi de communiquer. Actuellement, en Guinée, nous essayons de travailler dans le cadre du même projet sur une application qui permettrait même d'échanger, de créer une plateforme d'échange de ces tracés, avec des neurologues d'ailleurs, pour prendre, par exemple, un second avis. Donc, ça permet vraiment d'améliorer la qualité de la prise en charge des gens.
Alors, avec qui vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous êtes accompagné par une structure locale qui s'est dit on va miser dessus, c'est une bonne affaire, et en même temps c'est utile pour la communauté, pour la population?
C'est une question qu'on devrait répondre comme si on était un politicien, mais je ne suis pas encore un bon politicien. On a l'aval du ministère de la Santé, les études se font dans l'hôpital national. Mais en termes de subventions ou de grants, comme on dit, c'est subventionné par l'hôpital général de Boston. Parce que tout simplement, la technique standard à Boston, c'est le jet classique, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et comme ces études ne peuvent pas être effectuées à Boston, donc ça permet d'avoir des financements. Et donc, on a déjà fait plusieurs missions en Guinée, plusieurs enregistrements. Les données ont été publiées déjà l'année dernière. Dans la revue Science, pour dire que il y a quasiment une concordance, la même efficience entre le SBS2 et la technique classique de EEG. Et la seconde étude de validation est en cours et va finir à la fin de cette année. Et on verra avec l'équipe danoise comment est-ce qu'on peut vulgariser ça sur l'ensemble du continent.
Alors, vous dites l'équipe danoise, c'est très bien que l'équipe danoise l'accompagne, mais vous êtes en Guinée, vous travaillez en Guinée. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas sur place des structures ou une entreprise qui puisse vous accompagner?
Qui puisse, oui. En tout cas, on entend des montants colossaux à la radio et à la télé. Mais pour l'épilepsie, on n'en a pas encore. Bon, peut-être qu'après cette émission, il y en aura. Mais pour être honnête...
J'espère aussi, mais dans le même temps, est-ce que vous l'avez vulgarisé? Est-ce que vous avez eu la démarche commerciale, la démarche marketing? Parce que peut-être que vous êtes resté technicien en vous disant « j'ai inventé, on va venir vers moi ».
C'est passé à la télé. Quand on fait des campagnes d'épilepsie, c'est des patients qui sont consultés gratuitement. C'est des patients qui sont enregistrés deux fois, gratuitement, avec l'équipe de Boston. Il y a des dons de médicaments qui sont faits, c'est fait à la télé.
On entend les Africains dire on va s'approprier ce type de création en Afrique. Si on veut vous joindre, professeur Fodé Abassissé, où est-ce qu'on vous joint et comment on fait? Si quelqu'un est intéressé d'un coup par cette invention.
Sur Internet déjà, j'ai mon nom, j'ai mon email, j'ai des publications que j'ai déjà faites, on peut me contacter. Je travaille à l'hôpital national d'Ignazine, au CHU d'Ignazine. Donc si vous avez le standard de l'hôpital et que vous demandez à parler au chef du service de neurologie du CHU d'Ignazine, vous le joignez tous les matins à 8h, je suis là. Donc techniquement, je ne suis pas caché. Récemment, on a eu un prix avec la fondation Pierre Fabre à Toulouse. Si vous passez par cette fondation, on est joignable. Donc on est là.
On va revenir à vous, docteur, dans un instant, puisqu'on va parler de l'aspect pratique des choses dans la seconde partie. On va revenir vers vous dans un instant. Mais on se tourne cette fois-ci vers Jean-Luc Semedo, qui est le cofondateur de HOP au Sénégal. C'est quoi HOP?
HOP, c'est une plateforme web et mobile destinée aux structures de santé et aux banques de sang et leur permettant d'améliorer la disponibilité en produits sanguins dans ces structures. C'est-à-dire qu'on est parti d'un problème qui est à la fois sur le Sénégal, à la fois sénégalais et africain.
Qui est largement africain, hein, c'est pas seulement sénégalais. Largement africain. On rencontre ce problème de dons de sang partout sur le continent quasiment, sauf en Afrique du Sud peut-être.
Exactement. Et d'ailleurs, l'OMS estime que toutes les deux secondes dans le monde, une personne a besoin d'une transfusion sanguine pour survivre, et estime à environ 500 000 femmes le nombre de femmes qui perdent chaque année la vie à cause de ce fléau.
L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé.
La santé, merci. Au Sénégal, nous, on s'est rendu compte que seuls 0,6%, je répète, 0,6% de la population sénégalaise donne chaque année du sang. Ce qui est un nombre, mais qui est gravement faible.
Absolument.
Donc, nous, en tant qu'ingénieurs, en tant que développeurs, on a pensé à créer une solution digitale qui permette aux banques de sang d'abord de gérer les stocks de sang, de gérer les donneurs et les dons, et aussi une solution qui leur permet de communiquer avec les communautés de donneurs de sang. On est parti de cette opportunité que nous offre aujourd'hui le téléphone mobile. Dans plusieurs pays africains, on a un taux de pénétration du mobile qui dépasse les 100%. On est à 104% au Sénégal. Toute notre solution gravite autour de ce téléphone mobile. Aujourd'hui, grâce à notre solution, les banques de sang, qu'elles soient dans la capitale, qu'elles soient loin de la métropole, dans un village très lointain, sans une bonne connexion, peuvent aujourd'hui gérer les dons de sang qui sont faits journalièrement, les stocks de sang qu'ils ont en interne, mais aussi arrivent à envoyer des messages de remerciement après un don au donneur et des messages de rappel de don, 3 mois ou 4 mois après. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que aujourd'hui, lorsqu'il y a par exemple une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou due à l'homme, où il y a un manque de sang qui se fait remarquer, mais de façon
criarde.
Criarde, exactement. Notre solution permet aujourd'hui d'envoyer des messages d'urgence à des centaines de personnes pour leur demander de venir donner du sang.
Alors, quand vous dites vous envoyez des centaines de messages à des personnes, c'est via une application, c'est via une plateforme, la vôtre, Hop.
Exactement, c'est grâce à notre plateforme qu'on met à disposition, comme je l'ai dit au début, des banques de sang pour leur permettre de gérer leur stock et leurs dons. Mm-hmm. C'est-à-dire que toutes les banques de sang reçoivent des donneurs régulièrement, tous les jours, mais ont besoin d'un outil, d'un registre pour classer ces donneurs, pour classer ces dons qui sont faits. Mm-hmm. Donc nous, notre outil leur permet digitalement de gérer tous ces flux de dons et de donneurs. Et derrière, nous, on utilise cette donnée, cette data, afin d'envoyer des messages à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà donné du sang, je donne un exemple à Yaoundé. Nous, on a l'information selon laquelle vous êtes de tel groupe sanguin, vous avez la dernière fois, vous avez donné du sang, c'était à telle date. Et quand il y aura un besoin à Yaoundé...
À ce moment, on est déjà répertorié et on connaît ceux qui sont potentiellement des donneurs de ce sang et de ce groupe-là. Alors, est-ce que ça marche?
Notre solution, on l'a pensée et créé en 2015, quand on était encore à l'université. Mmh. En 2016, on a lancé une phase pilote à Dakar, au Centre National de Transfusion Sanguine de Dakar, qui est le plus grand centre de don de sang du Sénégal. Mmh. Tenez-vous bien, en 4 mois, on a réussi à tripler le nombre de donneurs de sang dans ce dit centre.
Tripler le nombre de donneurs de sang.
Exactement. En près de 4 mois, on a eu des résultats, mais vraiment, vraiment bien. Et grâce à ces résultats, la Fondation Pierre Fabre nous a décerné le prix de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud en 2017.
Fabuleux.
En ce moment même, notre solution est en train d'être utilisée à l'hôpital régional de Thiès. Thiès, c'est une région qui se trouve à 50
km
de Dakar.
Km de Dakar.
Dans l'hôpital régional, exactement. Dans l'hôpital régional de Thiès, notre solution est en ce moment même utilisée. Donc c'est une solution qui a fait ses preuves, qui est à la disposition des hôpitaux sénégalais, mais aussi de toute l'Afrique.
Alors quand vous dites nous, vous qui exactement? Vous êtes des étudiants, vous êtes des financiers, qui vous accompagne dans cette aventure?
J'ai créé Hope avec, moi je suis sénégalais, j'ai créé Hope avec une amie de classe, on était de la même promotion, Evelyne Inès Mutonga, qui est camerounaise, qui a fait ses études à Dakar au Sénégal, et qui, elle, a eu aussi à rencontrer ces mêmes soucis de transfusion sanguine chez elle, au Cameroun, où elle a eu même à perdre une de ses meilleures amies qui était atteinte de leucémie, et faute de transfusion sanguine, faute de sang disponible, elle a perdu la vie.
C'est malheureusement la réalité quotidienne en Afrique, cette question des dons de sang. Il y a quelques semaines seulement encore, on vivait une histoire de cet ordre, d'un enfant malade qui est décédé parce que personne ne pouvait lui donner du sang. Et quelquefois, il y a encore sur la question des tabous, ou encore des superstitions, certains estiment qu'on ne doit pas donner du sang à l'autre. C'est hyper important de donner du sang. Alors donc, vous, dans votre cas, vous avez été sauvé parce qu'on a donné du sang à une certaine époque, lorsque vous étiez malade. Donc, vous avez cette collègue, cette camarade de classe avec qui vous avez créé cette plateforme.
Cette solution, exactement. Où nous, tous les deux, on est ingénieurs de conception. Donc, on a nous-mêmes pensé la solution, on l'a développée nous-mêmes. Parce que après cette solution, on a créé notre start-up dans l'ingénierie logicielle. Donc, aujourd'hui, on a toute une équipe derrière qui travaille sur cette solution. Du point de vue accompagnement, on a été accompagné par un opérateur sénégalais
le deuxième opérateur qui est Tigo Sénégal, parce qu'on avait remporté le prix de l'innovation numérique 2015 ici au Sénégal. Donc on a eu à bénéficier de leur accompagnement. Après cet accompagnement, on a encore été accompagné par la fondation Pierre Fabre, qui a soutenu le déploiement de la solution dans l'hôpital régional de Thiès. Donc ce sont ces deux structures-là qui nous ont accompagnés depuis le début. Voilà.
Jean-Luc Semedos, c'est une plateforme qui apporte des solutions aux difficultés que l'on rencontre dans la plupart des pays africains, comme on le disait tantôt. Comment faire pour la vulgariser, pour l'amener dans d'autres pays? De quoi avez-vous besoin? De qui avez-vous besoin? Et est-ce que vous avez envie de rencontrer des gens qui rendent ça, on va dire, plus populaire, qui amènent ça dans la plupart des villes, pour que l'on puisse gérer au moins en partie la question du don de sang?
Mais totalement, totalement. C'est peut-être notre plus grosse ambition. C'est aujourd'hui de faire en sorte que notre outil puisse être cet outil-là qui puisse révolutionner et résoudre cette question du don de sang qui est la même, comme vous l'avez dit, un peu partout en Afrique.
Un peu partout, un peu partout.
On a simplement besoin d'un coup de pouce, parce qu'aujourd'hui, notre solution, elle est là, elle est disponible. Mais on a besoin de financement pour pouvoir la déployer dans ces pays-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est très difficile pour des jeunes entrepreneurs comme nous d'avoir une voix qui soit entendue par tous ces hauts décideurs. Même ici au Sénégal, on a eu à rencontrer ces problèmes-là pour pouvoir... Juste pour vous dire que notre solution, même ici au Sénégal, à part ces pilotes qu'on a fait où toutes les dépenses ont été financés par d'autres organismes, j'ai cité la fondation Pierre Fabre. On n'a pas eu le soutien de nos gouvernementaux.
Ah, les autorités locales ne vous ont pas accompagné?
Non, absolument pas.
Absolument pas.
Nous, on ne demande pas de l'argent pour nous enrichir, mais simplement de l'argent pour pouvoir déployer cette solution.
Cette solution qui est utile pour tout le monde. Alors là, quand on est un donneur potentiel, quand on est monsieur tout le monde et qu'on se dit on peut apporter son sang, il faut télécharger l'application, comment elle s'appelle?
L'application, par contre, elle n'est pas ouverte au grand public, parce que comme je l'ai dit, c'est une solution qui est utilisée par les structures de santé.
Mais est-ce qu'il y a une possibilité d'extension pour que les gens se disent qu'ils peuvent donner leur sang aussi?
Totalement. En ce moment, on est en train de développer un chatbot. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chatbot, c'est un petit robot qui arrive de façon autonome à envoyer des messages. Donc, dans quelques semaines, il sera...
Eh bien, je viens d'apprendre cela, je ne le savais pas.
Il sera disponible sur Facebook. Et les personnes, de façon bénévole, pourront venir s'inscrire, donner leur lieu, là où ils habitent, leurs informations. Et au besoin, lorsqu'il y a un besoin, le chatbot leur enverra un message pour leur demander d'aller donner du sang.
Pour vous contacter, où est-ce qu'on trouve HOP aujourd'hui? Si quelqu'un a envie d'accompagner HOP au début de l'année 2019, puisque nous sommes à la fin de l'année et que c'est l'émission des innovateurs, si quelqu'un a envie de vous accompagner, il vous trouve où? Comment?
Totalement, et ils seront les bienvenus. On a un site internet qui est sunuhope.com.
Sunu?
Je vais l'appeler, c'est sunuhope.com.
Bien.
Sunuhope.com.
Si vous êtes investisseur et que vous avez envie d'accompagner cette plateforme qui résout en partie la question du don du sang, vous savez maintenant où vous adresser. Merci en tout cas, Jean-Luc Semedo, pour ce travail et bon courage.
On est aussi sur LinkedIn, donc voilà.
Voilà.
Et quand vous tapez Hope don de sang, on est assez bien référencé, vous pourrez avoir toutes les informations.
Très bien. Bonne fête, bonne année en tout cas, et puis on reviendra vers vous l'année prochaine pour voir ce que cela a donné. Bonne fête en tout cas, et merci à vous, à très vite. On arrive au terme de la première partie de ce magazine, ça va très vite. Dans la seconde partie, on sera avec Mahamat Hadjidj, cofondateur de la start-up tchadienne Courant Jabo, qui résout des problèmes d'énergie. Et puis on sera également avec Mamadou Gourossidibé, qui est inventeur du réseau social Lenali. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. À très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Malgré des moyens qui manquent cruellement, ils sont en revanche totalement décomplexés. Les solutions aux difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés doivent être trouvées sur place et par eux. pas question d'attendre les autres, les grands financiers, les multinationales, les lourdes institutions de Bretton Woods pour se soigner, pour avoir de l'énergie. Ils, ce sont les inventeurs africains qui chaque jour utilisent les nouvelles technologies pour très souvent pallier aux carences des pouvoirs publics. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain, la dernière édition de l'année consacrée ce dimanche aux innovateurs, aux inventeurs africains de l'année 2018. Plusieurs invités, plusieurs inventeurs, innovateurs. D'abord, le professeur Fodé Abbas-Cissé, qui est maître de conférences agrégé, neurologie et chef du service de l'hôpital Igasdine de Conakry. Il est l'inventeur du bonnet EasyCap, des bonnets qui permettent d'enregistrer les données dans une crise d'épilepsie. Deuxième invité, Jean-Luc Semedo, cofondateur de la plateforme Hope, qui permet de créer un réseau connecté de dons de sang. Jean-Luc Semedo est en direct de Dakar au Sénégal. Notre troisième invité est Mahamat Adjid, cofondateur de la start-up tchadienne Courant Jabo, qui a mis sur pied un système pour fournir de l'électricité aux familles modestes qui n'y ont pas accès jusque-là. Un système vert et moins cher. Notre dernier invité, installé dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, est Monsieur Gouro Sidibé, l'inventeur du réseau social Lenali, premier réseau totalement vocal, un mélange de Facebook et Viber, destiné à ceux qui ne savent pas lire ou écrire. Alors, dans cette seconde partie, nous sommes avec Mahamat Adjid, qui est le cofondateur de la start-up tchadienne Courant Jabo. Sa solution fonctionne déjà chez plus de 100 ménages. C'est quoi cette solution, Courant Jabo?
Oui, Courant Jabo est une start-up sociale qui rend l'énergie solaire accessible aux ménages à faible revenu qui n'ont pas accès à l'électricité. Avec notre système des objets connectés, les ménages à faible revenu peuvent bénéficier d'un paiement échelonné jusqu'à 6 mois. Selon leur capacité financière, que ce soit journalier, hebdomadaire ou mensuel.
Très concrètement, c'est-à-dire vous donnez de l'énergie aux familles qui n'ont pas de moyens, les familles les plus démunies, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Les familles qui n'ont pas accès à l'électricité, même ceux qui sont aux alentours de N'Djamena.
Aux alentours de N'Djamena, qui est la capitale. C'est quoi la solution? Comment vous faites? Parce qu'on connaît les sociétés d'énergie qui fournissent, qui sont généralement des sociétés d'État ou des grandes sociétés privées. Vous, comment vous faites? Vous trouvez cette énergie où et comment?
Nous, on leur distribue des kits solaires autonomes.
Des kits solaires autonomes.
Avec notre plateforme. Nous avons une plateforme qui nous permet de contrôler ces kits à distance.
Donc vous donnez des kits aux différentes familles.
Aux différentes familles qui n'ont pas accès à l'électricité.
Qui n'ont pas accès à l'électricité.
Un revenu.
Et ces kits sont des kits solaires que vous placez sur le toit. Vous les installez comment pour qu'ils puissent avoir de l'énergie? Et est-ce que ça permet d'éclairer une famille et de donner l'énergie nécessaire à toute une famille?
Oui, bien sûr. On installe la photovoltaïque sur le toit et on a trois lampes qui sont les deux qui sont fixes et l'autre est mobile. Et ils leur permettent aussi de charger leur téléphone portable, par exemple.
Qui est souvent le problème, voilà. Parce que les téléphones portables sur le continent, quand il y a les coupures d'électricité, c'est généralement le premier souci de la plupart des gens. Ils se disent, je suis coupé du monde, je ne peux plus téléphoner. Donc, vous avez trois lampes.
Voilà, nous avons trois lampes. Les deux sont fixes et l'autre, le troisième, il est mobile. La lampe, elle est mobile, donc c'est ça. Parce que ici au Tchad, on a l'accès à l'électricité est très difficile. On n'arrive pas. Le taux de certification est seulement de 6,4% selon les données de la Banque mondiale. Et donc, pourquoi on s'est dit pourquoi pas profiter de ce soleil pour ce taux éclairé, alors que nous avons le soleil de 6h à 18h.
Et plus de 9 mois dans l'année.
Oui, toute l'année.
Donc vous vous dites on va exploiter le soleil qui est là gratuitement, mais qui les fait ces panneaux voltaïques, ces panneaux photovoltaïques que vous donnez à vos clients? C'est vous qui les fabriquez? Le système, c'est vous qui l'avez mis en place?
Non, maintenant nous avons seulement notre plateforme qui nous permet, mais l'équipe on n'a pas encore les moyens de les fabriquer ici.
Donc vous...
voilà, c'est ça. On joue l'intermédiaire entre la technologie qui est là et ceux qui n'ont pas accès à l'électricité.
Alors, vous jouez les intermédiaires avec votre plateforme. En quoi consiste vraiment cette plateforme?
Notre plateforme nous permet de contrôler les kits à distance. Si le client ou le bénéficiaire il décide de s'engager avec nous, il doit signer un contrat. On lui envoie un code sur son téléphone portable. Il reçoit, il va désactiver, il y a un code qui va désactiver, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il finit le paiement le kit lui revient.
Une fois qu'il a fini, le kit lui revient et il peut recharger ce kit.
Voilà, il peut recharger à chaque fois. C'est le soleil qui charge le kit. Mm-hmm. Et il a une garantie d'une année.
Alors, combien de clients vous avez aujourd'hui?
Nous avons une centaine.
Une centaine de clients. Et ça marche pour eux? Il n'y a pas de plainte? Est-ce que c'est une solution qui peut s'étendre sur l'ensemble des autres régions du Tchad?
Oui, ça marche bien même. Ça marche. Bien aussi, ça marche. On n'a pas rencontré des difficultés avec nos clients. Ça marche très bien. Et même, on a notre vision est de. Ce n'est pas vraiment d'arrêter ici au Tchad. Nous voulons conquérir l'Afrique centrale.
Vous voulez conquérir l'Afrique centrale. Il faut déjà conquérir le Tchad. Quand vous dites non, je pose la même question qu'aux autres. Qui met cette solution en place? Et est-ce que vous êtes accompagné par les autorités, par les pouvoirs publics au Tchad?
Non, pour l'instant, non. Nous ne sommes pas accompagnés par quelqu'un. C'est nous qui avons décidé avec nos propres moyens. On a commencé et maintenant ça marche. Mmh. Et même, on s'est dit, même si avec l'autorité ou sans l'autorité, rien ne pourra nous empêcher de continuer.
Oui, mais vous avez obtenu une autorisation des autorités sur place.
Voilà, on a notre autorisation.
Et vous n'avez pas sollicité des structures sur place pour vous accompagner, pour vous permettre de grandir?
Nous avons participé à un concours d'un téléphonie mobile Tigo et Rick for Change. On a remporté le prix et ça, c'est avec ça et avec nos propres moyens qu'on évolue.
Alors, comment on entre en contact avec vous puisque cette émission consacrée aux innovateurs africains veut aussi les mettre sur, on va dire, en orbite, qu'on les voit, qu'on sache qu'ils existent et qu'on arrête de dire qu'ils n'existent pas et qu'on ne peut pas financer. Comment on entre en contact avec vous?
Notre site, nous avons notre site www.courantjabo.com.
www.courantjabo.com. Il faut dire que
voilà.
Et Courant Jabot, ça s'écrit différemment, hein. C'est-à-dire Courant Jabot, ça s'écrit KOURAN et plus loin Jabot JABO. Donc Courant Jabot peut être contacté. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des financiers qui se sont manifestés auprès de vous pour l'agrandissement et est-ce que vous avez vraiment besoin d'eux? Est-ce que vous avez les structures pour pouvoir grandir? Parce que certains meurent de grandir trop vite.
Non, jusqu'à là, on n'a pas encore, parce que ici, les gens n'ont pas cette culture. Les entreprises, ils ne font pas confiance aux entreprises, ils préfèrent faire leur affaire, d'autres affaires. Et avec la crise, on ne sait pas, mais en tout cas, on est en train de se battre pour avoir une international.
Mais on vous souhaite bon courage et bonne année, et on espère que l'année prochaine, Courant Jabot sera dans tout le Tchad et que la question d'électricité, vous aurez contribué à résoudre la question énergétique. Bon courage en tout cas. Dans ce studio, Mamadou Gouro Sidibé, qui est inventeur du réseau social Lenali. Encore une solution liée aux start-up. C'est quoi Lenali exactement?
Bonjour, bonsoir tout le monde. Et Lenali, c'est une application mobile, réseau social, totalement vocale et qui parle les langues locales africaines. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que tout un chacun, qu'on soit instruit ou non, qu'on puisse avoir accès aux services numériques. On parle de quel constat? En Afrique, l'oralité, c'est une culture. C'est chez nous qu'il y a les griots. C'est chez nous où on a dit que chaque vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Donc, cette culture oralité, elle est là. Deuxième chose, il y a le problème du fait que l'alphabétisation a un faible taux dans beaucoup de pays. Dans toute l'Afrique en général, c'est 50%. Et au Mali, par exemple, mon pays natal, c'est 39% pour la population en 2018. Pour les hommes, c'est 48%. Pour les femmes, c'est seulement 29%. Donc, à cela s'ajoute que dans beaucoup de pays, il y a une multitude de langues. Donc, il y a une multitude de langues. Donc, on ne peut pas, avec les outils existants, bien qu'ils sont très populaires des réseaux sociaux, toucher une majorité des populations africaines. Je prends simplement que, selon les sites We Are Social, en 2018, il y a uniquement 10%, donc moins de 10%, c'est 9, pour être précis, de la population malienne qui est active sur Facebook, par exemple. Sachant que, potentiellement, plus de 60% de la population malienne a accès à l'Internet. Mais les actifs sur Facebook, par exemple, c'est seulement 9% en 2018.
Donc, vous voulez capter ceux-là qui n'écrivent, qui ne peuvent pas écrire, qui sont des analphabètes, en gros, pour schématiser, qu'ils puissent parler, que cela puisse se faire oralement, qu'on n'écrive pas, que désormais, quand ils ont envie d'aller sur les réseaux sociaux, ils n'aient pas peur de, mais d'être freinés par le fait qu'ils ne sachent pas écrire.
Tout à fait.
Alors, ça se passe comment, très concrètement? Je suis un analphabète, et j'ai envie d'accéder aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais très concrètement, d'accéder à l'Enali?
D'accord. L'Enali est sur Play Store. Donc, quand on télécharge l'Enali, comme toutes les autres applications, la première chose que l'Enali fait en son lancement, c'est de proposer les choix, tout de suite, de la langue locale qu'on souhaite utiliser. Et d'ailleurs, ça commence à le jouer. Pour qu'on se rende compte que, voilà, et on peut choisir parmi ces langues-là, les langues disponibles. Première chose. Deuxième chose, il y a des guides vocaux, des instructions vocales en langue locale qui expliquent pas à pas comment l'installation va se faire. Parce que plus de la moitié de ceux qui utilisent aujourd'hui les outils numériques se font installer par quelqu'un d'autre. Il y a déjà pas une compréhension. Ensuite, il y a les profils vocaux. C'est-à-dire, j'arrive au côté profil, je ne sais pas écrire, je ne pourrais pas normalement, sans l'aide de quelqu'un, accéder aux autres réseaux sociaux, aux autres outils. Donc, si on peut, on l'écrit, mais si on ne peut pas, on le dit. Par exemple, je m'appelle Mamadou Sidibé et je suis dans le quartier de Sotiba, voilà, et je suis même, par exemple, informaticien. Donc, simplement, donc il y a le profil vocal. Donc, on rentre dans le système. Une fois qu'on est dans le système, on donne des outils qui permettent de faire des publications vocales, des commentaires vocaux et même des photos sonores. C'est-à-dire, on peut prendre la photo de l'événement ou de la chose qu'on veut publier et ensuite on appose, contrairement aux autres outils, on appose une bande sonore, mais on peut écrire aussi, on n'exclut pas cette possibilité-là, mais on peut faire tout. Donc du coup, on se retrouve dans un monde où qu'on sache,
il n'y a plus la barrière linguistique. Voilà. Vous avez supprimé la barrière linguistique. Oui. Combien y a-t-il de langues dans ce système?
Aujourd'hui, on a 7, je crois.
7 langues.
Je crois. Ça vient de moi.
Vous croyez.
Il y a le Bambara, il y a le Soninké, il y a le Sonray, et il y a le Moré, il y a le Wolof, et il y a le Peul. Donc, et les Français, évidemment.
Pour l'instant, c'est essentiellement des langues d'Afrique de l'Ouest. Sénégal-Mali.
Voilà. Et le français, évidemment. Et donc, ça, ce sont les langues qu'on a mis. Mais on a déjà préparé les Ewe, qui est du Togo. Et on est en train d'introduire aussi le Kirwanda, qui est du Rwanda. Parce que l'équipe aujourd'hui, l'Enali, c'est une équipe de jeunes Africains.
Justement, parlons-en de l'équipe. D'où vient cette idée, l'Enali? Qui sont les acteurs et les créateurs de l'Enali?
D'accord. C'est parti de moi au début.
De Mamadou Goro Sidibé.
Oui, donc j'ai fait mon doctorat ici en France, en informatique. J'ai travaillé sur des projets européens. Et après, à un moment donné, j'ai dit, bon, il y a Viber, ça marche bien. Alors, pourquoi ne pas le faire que ça marche mieux au Mali? Parce que les infrastructures étaient assez aléatoires, donc l'accès aux services. J'ai dit, il faut faire un Viber qui marcherait mieux, par exemple, au Mali. Donc, l'idée est partie tout simplement de faire un Viber malien. Ensuite, une année plus tard, 20 millions de francs CFA dépensés, je me suis rendu compte que j'arrivais jamais à refaire la même chose que les autres, parce que chaque fois que j'innovais, je voyais que d'autres innovaient. Absolument. Donc ensuite, j'ai rencontré des jeunes gens fous qui ont voulu me suivre sans salaire.
Des diplômés africains.
Oui, des jeunes diplômés africains qui n'étaient pas, par exemple, niveau licence, par exemple, qui m'ont vu, qui ont cru à l'aventure, et donc qui m'ont suivi. Et donc, ensemble, on a essayé de faire une sorte de mixte entre Facebook et Viber pour qu'il n'y ait pas des outils, parce que à l'époque.
Est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens sont déjà sensibilisés dessus? Est-ce que c'est utilisé par les Maliens?
Oui, c'est utilisé par les Maliens, parce que l'Enali, depuis son lancement, on va dire, il y a un an et demi, en mars 2017 environ, il y a plus de 50 000 téléchargements.
50 000 téléchargements.
Oui, et sachant qu'on n'a pas encore commencé une campagne de publicité en bonne et due forme. Parmi ces plus de 50 000 téléchargements, plus de un peu plus d'un tiers, c'est téléchargé au Mali.
D'accord.
Et paradoxalement, un tiers dans l'Afrique. Bon, aujourd'hui principalement par la diaspora malienne, puisque historiquement ça part du Mali. Absolument. Et puis un tiers en Europe, donc 15% en France.
15% en France.
Ouais, 10% en Italie. Voilà.
Alors, comment développer le Nali aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez pour que le Nali soit, comme vous l'avez dit quelque part, le Facebook africain?
Des investisseurs.
Des investisseurs. Vous avez pris contact, parce qu'on reproche souvent aux inventeurs africains de ne pas avoir aussi une fibre, on va dire, commerciale, marketing.
Oui, il y a ce côté-là, mais je dois dire que les jeunes qui m'ont suivi, si moi je peux dire qu'un peu dans l'âme, un peu chercheur, un peu inventeur, je suis pas seul. Donc, comme je l'ai dit, il y a une équipe, et parmi eux, il y en a qui comprennent tout à fait ce côté marketing, ce côté entrepreneur.
Recherche de financement.
Et qui me sert même du coup, mais il faut arrêter d'innover, il faut aller vers le financement.
Voilà, effectivement. Il faut aller chercher l'argent.
Voilà, il faut aller chercher l'argent. Si, on l'a essayé, mais au début, c'était difficile de vendre cela. Parce que face au mastodonte qui existe, dire qu'on va faire une version locale, ce n'était pas l'idée. On trouvait, oui, c'est génial, mais on passait à autre chose. Après, on demandait rapidement comment on fait de l'argent. Ce n'était pas très clair.
Justement, c'était ma question. Quand on a créé quelque chose comme celui-là, comment on fait de l'argent avec?
Bon, j'ai dit déjà que il y a déjà un modèle, hein. Facebook, comment il fait de l'argent? Donc c'est entre guillemets de la publicité ciblée. Donc et puis mais c'est basé surtout sur beaucoup de monde d'abord. Et dans le modèle des réseaux sociaux, il faut investir, attendre qu'il y ait du monde. Ensuite, on peut capitaliser sur cette audience-là.
Alors, est-ce qu'il y a des investisseurs qui se sont manifestés?
Oui, aujourd'hui, on a été invité, par exemple, il y a un programme qui est lancé par la structure Sokuba, avec la Banque mondiale qui a lancé. Donc, ils sont entrés à la recherche dans l'Afrique francophone de 20 startups capables
de
projeter dans toute l'Afrique. Donc, ils peuvent lever des fonds en 500 000 dollars jusqu'à 3 millions de dollars. Donc on nous a informé, on est dans les starting blocks, on veut ouvrir notre capital. Et donc comme je l'ai dit au début, on est allé voir des gens qui tout simplement nous avaient pas cru parce qu'ils croyaient que la mayonnaise n'allait pas prendre. Et quand, avec le temps, on a eu du monde, rien qu'avec du bouche à oreille, du temps, et puis on a été petit à petit sélectionné pour être primé ici ou là, et on commence à voir que la mayonnaise prend. Donc je crois que nous, on est à la recherche d'investisseurs, donc qui croient.
Comment vous contactez rapidement, parce que le temps tourne vite, on a.
Oui, comment contacter l'Enali? C'est d'abord contact, tout simplement, @ lenali.ml, lenali.ml. Il y a aussi le site lenali, effectivement.ml, et sur les réseaux sociaux, # lenali, on nous retrouvera.
Bien. Eh bien, je crois qu'on verra ce que ça donnera l'année prochaine. En tout cas, bonne année, bonne santé, bon courage dans ce
que vous allez faire. Merci, bonne année à tous.
On aurait aimé avoir beaucoup plus d'inventeurs et beaucoup plus de temps pour parler des choses qui se font, mais en tout cas, on est content de vous avoir reçu et on se rend compte que les smartphones, ça compte beaucoup. La nouvelle technologie, les Africains sont en train de se l'approprier pour développer leur pays. Je dois préciser que ces inventeurs sont loin d'être les seuls sur le continent cette année. Ils sont de plus en plus nombreux, totalement décomplexés, à travailler pour inventer des solutions dans les domaines les plus variables, de la mathématique à la médecine, de la géologie à la biologie en passant par la physique. Il faut dire que si le moyen manque cruellement, l'Afrique dans le même temps n'a jamais été aussi présente sur la scène scientifique mondiale. On en parlera certainement l'année prochaine. En attendant, Delphine Michaud, Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2019. À l'année prochaine. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.